Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, on va réécouter ensemble les meilleurs extraits des émissions de la semaine. Et on commence avec le Loft Music. Mercredi, Yvan Cujus recevait Sandrine Alexis, l'occasion de découvrir ou redécouvrir toute l'étendue du talent de l'imitatrice. De Catherine Ringer à Jane Birkin, en passant par Vanessa Paradis, écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Alors, parmi les voix que tu fais magnifiquement bien, Sandrine Alexis, il y en a tellement qu'on ne va pas toutes les écouter. Mais par exemple, il y a celle-ci, écoutez donc. Je n'ai pas besoin de dire qui c'est. Hein.
La 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 la.
C'est bluffant. Hein. On pourrait faire un jeu pour savoir si c'est la vraie ou pas, tellement c'est proche. Incroyable. Jane Birkin, l'un des...
Elle sera là
dans le spectacle.
Catherine Ringer dans le spectacle et elle nous chantera que les histoires d'actu finissent mal en général.
Et elle était dans le Loft Music il n'y a pas longtemps avec Gérard Lanvin et Manu Lanvin il y a une petite semaine chez nous. Et Jane Birkin, l'une des voix favorites de Sandrine Alexis.
Oui, moi je vais parler d'elle. Oui, tu veux me faire écouter mon chanson peut-être.
oui Jane.
Oui. C'est beau. C'est beau.
Ah, c'est bluffant vraiment, je le redis, mais c'est.
Oui. Ah, c'est bon.
On ne sait pas. Et puis voilà. Est-ce que tous les imitateurs. Non, en fait, j'ai la réponse avant de poser la question.
Tu sais que dans le spectacle, je vais parler d'un truc, il est très important. Je vais parler de l'écologie, qui c'est important, puis c'est pour tout le monde, pour les planètes. Parce que moi, je trouve que c'est important de défendre les planètes, parce que moi, je vois que je n'ai jamais réussi à sauver le grand-mère. Tu vois ? C'est pour ça que je me lance dans l'écologie.
Est-ce que... c'est pas parce qu'on est imitateur qu'on est bon chanteur, hein, Sandrine, ou chanteuse, Sandrine Alexis. Il y a des exemples peut-être on va citer personne, mais des mecs qui chantent plus ou moins bien quand même parmi les imitateurs, les imitatrices. Par exemple, Véronique Dicker, c'est une grande voix. Bon, je ne vais pas citer les mecs qui ne chantent pas, mais il y en a qui chantent moins bien quand même.
Il y a des imitateurs qui ne sont pas chanteurs et il y a des imitateurs qui voulaient être chanteurs quand ils étaient petits, ce qui était mon cas, sauf que quand je me mettais à chanter, ben, je prenais la voix un peu instinctivement. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus chanteurs que d'autres.
Tu as commencé par papa et maman. Hein, l'imitation, c'est souvent le cas, non, j'imagine. On imite les proches.
Oui, c'est les profs, c'est les voisins, c'est la famille. Oui, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a un retour et que ça fait rire les copains. Donc, on se dit, tiens, ça marche en fait.
On devient humoriste après être imitateur ou on est humoriste avant d'être imitateur, finalement, Sandrine Alexis, pour toi ?
Pour moi, on est d'abord imitateur.
Ouais.
Et puis après on peut... si on a une nature un peu délirante, moi, j'aime bien délirer. Donc peut-être que le comique est plus accessible. Après, c'est de la comédie. On apprend à jouer un texte, à jouer les vannes et à devenir un petit peu humoriste aussi. Voilà.
Le spectacle s'appelle Sandrine Alexis flingue l'actu 100% féminin. Ce spectacle, il y a donc évidemment, j'allais dire, Vanessa Paradis, par exemple. C'est incroyable. C'est bluffant total. Et puis c'est des grandes chansons, hein, celle-ci de Gainsbourg notamment. Il y a évidemment une incontournable.
Vanessa Paradis, si tu veux, dans le spectacle, j'ai pas chanté une chanson qui est une chanson que tout le monde connaît. Moi, j'ai fait une reprise de Tandem qui s'appelle Gluten parce que j'ai envie de parler de cette espèce de religion qui est l'alimentation, toutes ces choses qu'on nous prive de manger. Je veux dire, moi, je veux manger du Nutella, je veux manger de la choucroute. J'en ai marre d'être maigre. Tu comprends?
T'as raison, c'est inattendu comme démarche. France Gall, évidemment, si je puis dire. Ça aussi, hein.
Ma vacances, c'est toujours Paris. Mes projets,
Sandrine Alexis.
Alors,
en direct sur Sud Radio. Vas-y.
Et France Gall, dans le spectacle, tu vois, elle aussi, elle a envie de parler d'actualité. Alors, elle ne va pas chanter Diego, mais elle va nous chanter Griveaux.
rappelle oui, de d'accord. l'affaire Benjamin Griveaux.
Oui, oui, oui.
Voilà,
oui, oui,
donc voilà, on se marre bien avec l'actualité finalement. Hein.
Et Clara Luciani, on en parlait tout à l'heure, la voici qui arrive. Mais également un duo Patrick Bruel et Dalida. Alors tu fais évidemment Dalida. Ça c'est le vrai, hein, Bruel.
Un jour même, même pas. Vers un canton de...
Donc le vrai Patrick
Bruel.
Ah,
c'est Bruel. Pas moi, hein, ça.
Non, non, ça c'est le vrai. Et là, Sandrine Alexis sur Dalida, c'est ça venu, et moi aussi. Mais je veux pas être c'est bien toi là.
Oui, c'est moi, ouais.
Et puis
alors,
cette petite.
Je te précise, Dalida, parce que là, tu me parles. Tout ce que tu nous fais écouter, c'est effectivement des petites vidéos que j'ai postées pendant le confinement. Oui. On en Absolument. A fait quelques-unes ensemble d'ailleurs.
Ouais, on va en écouter un petit bout, tiens. Ouais.
Voilà. Mais là, Dalida, dans le spectacle, elle va chanter parole. Et ça s'adresse à Emmanuel Macron. Parole.
Et il y a aussi Sophie Davant, tiens, que tu imites.
Et oui, bien sûr, il y en a une qui a une petite voix, deux petites souris. Elle s'appelle Sophie Davant, elle est très sympa. Sophie, bonjour, merci d'être venue dans l'Histoire continue. Alors, vous êtes célèbre, vous êtes belle, vous êtes une des plus grandes animatrices françaises. Et pourtant, vous n'avez jamais été imitée, Sophie.
Non.
Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi, d'après vous, les imitateurs n'ont jamais choisi de vous imiter jusqu'à ce jour, bien sûr?
Et puis Carla Bruni, évidemment.
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est moi, Carla Bruni.
Je me marre, pardon, hein, j'arrête pas de marrer, ça me fait trop rire, ces voix détournées. Chantal Latsou, évidemment, Chantal Latsou.
Tu sais que je suis dans le spectacle, bien sûr, je parle de masque. Moi, de toute façon, je n'en porte pas, je n'ai plus de place derrière les oreilles pour l'accrocher. Oui,
c'est moche, honte à toi.
Évidemment, il y a Chantal Latsou. Et bien sûr, on ne va pas faire un spectacle sans Chantal Latsou, évidemment.
Bonjour, Chantal Latsou, humoriste.
Ah, c'est raccord total.
Le rôle de la sorcière.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous chaque jour de 20h à 21h dans le Loft Music. Restez sur Sud Radio, on va revenir dans un instant avec Philippe Rossi et l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur la violence des réseaux sociaux et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, l'avocate Aurore Boyard. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner comme tous les week-ends et de réécouter avec vous des extraits des meilleurs moments de la semaine. Et on continue d'ailleurs avec l'équipe des Vraies Voix. Lundi, Philippe Rossi et ses chroniqueurs Philippe Bilger, Laura Tenoudji et Michel Pouzol, ainsi que leur invité, la députée Les Républicains du Doubs, Annie Genevard, ont débattu sur la violence des réseaux sociaux. Une violence dénoncée récemment par Emmanuel Macron. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Nous ne pouvons plus nous résoudre à assister passivement au déchaînement de la haine sur les réseaux sociaux.
La haine en ligne, justement.
Ces géants du net ne font pas assez contre la haine en ligne.
Comportement haineux sur Internet.
Cette haine qui pourrit la vie.
Twitter a suspendu 270 000 comptes pour incitation à la haine.
Contrôler la haine, limiter sa diffusion.
J'ai une haine, vous pouvez pas savoir.
Dans notre pays, on voit une montée des violences. Mais elles ont deux racines profondes. Les inégalités et l'ensauvagement des discours sur les réseaux sociaux.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est
les réseaux sociaux sont-ils responsables de la violence? Comme le dit Emmanuel Macron, beaucoup de votes. Et vous dites non, ça a beaucoup monté. Hein. Vous dites non à 92% sur le compte Twitter de Sud Radio. Le grand débat, c'est avec Laura Tenoudji, Philippe Bilger, Michel Pouzol et notre invitée, la députée Annie Genevard. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Madame la députée, députée Les Républicains du Doubs, vice-présidente LR de l'Assemblée nationale. Je vous présente Michel Pouzol, Madame la députée, Philippe Bilger, Laura Tenoudji. Est-ce que vous partagez l'avis d'Emmanuel Macron? Toute cette violence a un point en commun et son origine, Internet, Twitter, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux.
D'abord, j'observe avec intérêt que le chef de l'État, après il y a un an avoir dénoncé le terme d'ensauvagement, l'utilise. Ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience de la situation. J'ajoute que si les réseaux sociaux ne sont pas une cause, ils en sont assurément un symptôme, ils participent à cette violence générale qui traverse notre pays aujourd'hui, et les chiffres sont là pour l'attester, puisque les coups et blessures volontaires ont augmenté de plus de 20% en 3 ans, les homicides de 9%, les violences contre les policiers, les gendarmes, les personnes dépositaires de l'autorité publique de plus de 20%. Donc, on voit bien que cette violence, et aujourd'hui encore, un jeune, un adolescent de 16 ans a été tué à coups de couteau à Rouen à la suite d'une rixe entre bandes. Donc, les exemples, enfin, il ne se passe pas un jour sans qu'on ait un fait divers abominable à l'égard d'une femme, à l'égard d'un jeune. Donc, je veux dire, la violence sur les réseaux sociaux, elle est absolument certaine. D'ailleurs, le projet de loi contre le séparatisme va durcir les peines lorsque ces violences s'exerceront à l'encontre d'un mineur. Mais ça n'est pas une cause, c'est une des formes que prend la violence aujourd'hui dans notre pays.
Alors selon Emmanuel Macron, effectivement, c'est tout part des discours haineux sur les réseaux sociaux. Est-ce que Emmanuel Macron ne fait pas un déni de réalité? Est-ce que c'est pas la société qui est de plus en plus violente?
Alors, évidemment, quand on dit la société, c'est une façon presque d'évacuer le problème. Il y a des responsables de cette violence et il faut pouvoir les identifier et les traduire en justice. Et je pense à Mila en particulier. Le fait que le procès se soit ouvert à l'égard de ceux qui ont appelé au meurtre de Mila est finalement rassurant. Ça veut dire que l'anonymat n'existe pas sur les réseaux sociaux. Et quand on veut poursuivre, on le peut. Mais lorsque les proportions sont aussi importantes, hein, je crois qu'il y a eu plus de 100 000 menaces de mort à l'égard de Mila, il est bien évident que ça interroge aussi la responsabilité des réseaux sociaux eux-mêmes. On ne peut pas laisser prospérer, mais nous-mêmes nous en sommes les victimes, les acteurs politiques. Lorsque nous prenons des positions sur tel ou tel sujet, on voit se déchaîner la horde des malfaisants qui nous abominent d'injures sur telle ou telle prise de position, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Et voilà, donc c'est
et puis malheureusement, les médias relayent tout ça parce que les réseaux sociaux, combien de Français sont vraiment connectés sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, hein, Philippe Bidjar? Finalement, peu de Français.
Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je le suis.
Oui, bah, vous l'êtes. Non, mais c'est vrai, Michel Pouzol, peu de Français sont connectés finalement.
Non, en proportion, effectivement, ouais. On a l'impression qu'on
est. Les polémiques qui naissent sur les réseaux sociaux, les Français s'en fichent.
On est sur des grosses minorités. C'est ça la question, on est sur des grosses minorités qui tournent en boucle. D'ailleurs, certains médias reprenant ça comme un amplificateur, et on est effectivement dans une sensation oppressante de cette violence-là, et qui se déchaîne parfois comme une vague, parce que c'est ça, c'est ce phénomène d'espèce de vague, absolument. De horde qu'on voit apparaître, qui est complètement... C'était valable pour ce qu'on disait sur le harcèlement tout à l'heure aussi scolaire. C'est ce phénomène de meute, de horde, qui, je ne sais pas, rend les choses très complexes. Ouais.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Pour retrouver Philippe Rossi et toute l'équipe des Vrais Voix, rendez-vous dès lundi de 17h à 19h. On continue maintenant avec un extrait de la matinale de jeudi. Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient Aurore Boyard, avocate spécialisée en droit de la famille et du patrimoine, venue présenter son livre « Lorsque les robes s'en mêlent », un livre dans lequel elle alerte sur le manque de magistrats, de greffiers et de moyens alors que les affaires s'accumulent. On l'écoute.
Le meilleur de Sud Radio.
Aurore Boyard, bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille et du patrimoine et vous venez pour ce roman « Lorsque les robes s'en mêlent et s'en mêlent ».
Oui.
Voilà, c'est ça, bienvenue. Et Sarah Salman, avocate au barreau de Paris, spécialiste au barreau du droit de la famille, du divorce et du droit pénal. Merci d'être avec nous pour ce livre, vous, que vous avez coécrit avec Olivier Cousy, « Tout pour se défendre » aux éditions Robert Laffont.
Oui, voilà. Alors, entre une jeune avocate et une avocate plus expérimentée, vous allez nous donner votre impression quand même aussi, parce que de plus en plus, quand même, on se pose la question, est-ce que la justice est accessible à tous? De plus en plus, on va vers une société à l'américaine, c'est-à-dire judiciarisation des affaires, mais est-ce qu'elle est accessible en fait à tous? C'est l'une des grandes questions qui revient. Aurore Boyard et ensuite Sarah Salman.
Alors, moi je dirais que non, aujourd'hui, avec toutes les réformes qui se font, on rend la justice beaucoup moins accessible aux particuliers, aux justiciables, tout simplement parce qu'il faut désengorger les tribunaux. Le problème de la justice aujourd'hui, c'est le manque de magistrats, le manque de greffiers, le manque de moyens, et les affaires s'accumulent et augmentent le nombre d'affaires augmente tous les ans. On a le même nombre de magistrats qu'en 1880, ouais. alors que nous sommes en 2021 et que les affaires ont été multipliées par 10, voire par 15.
Oui. Sarah Salman, avec votre vision...
Regard plus neuf.
Plus neuf, oui, ouais. absolument.
Bah, regard plus neuf, mais comme j'ai co-rédigé ce livre avec le bâtonnier du barreau de Paris, Olivier Cousy, ça nous a permis aussi d'avoir une transversalité dans la vision. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment un manque d'accès aux droits. Et ce que j'ai voulu faire, c'est aussi vulgariser.
Bien sûr.
Parce que, en fait, les gens n'ont pas conscience de leurs droits, n'ont pas connaissance de leurs droits. Et par rapport à ce que disait mon confrère, je rejoins ses propos parce qu'il y a un problème d'accès à la justice dans le sens où si on commence une action, on est pressé, si c'est pour avoir une date d'audience à la Saint-Glinglin, c'est quand même embêtant.
Mmh. Ouais.
Et quand les justiciables arrivent à l'audience, ils se disent « j'ai attendu 10 mois » et l'audience c'est one shot, en 10 minutes top chrono, c'est fini.
Ouais.
Donc oui, il y a un sentiment bien sûr d'incompréhension.
Ce qui était incroyable, c'est que la justice a été confinée, alors du coup ça a forcément encore freiné tous ces dossiers. C'est incroyable de se dire que la justice a été confinée. Enfin,
Alors la justice a été confinée alors que 6 semaines, quand même, on a fait partie, on a eu qu'un seul confinement. Ouais. Derrière, on s'est adapté, mais effectivement, mais je pense que ça tient au fait que, on savait pas ce virus, personne, on ne connaissait rien. Donc effectivement, ça a été très dommageable, ça a été très ennuyeux parce que, on a eu du retard. On a forcément accumulé du retard.
Et il y avait déjà du retard.
Et il y avait déjà du retard, bien évidemment. Et il faut arrêter de dire que c'est à cause des grèves des avocats, parce que ça, on l'a entendu. Il y a du retard parce qu'il y a des manques de magistrats, il y a des manques de greffiers, et encore aujourd'hui, on le voit bien. Nous, on le vit au quotidien.
Mais est-ce que ça veut dire que les clients peuvent se sentir lésés d'une manière ou d'une autre ?
Évidemment.
Oui. Ah oui, carrément.
Bien sûr que...
Mais carrément, parce que la dématérialisation des procédures, faut pas que ça devienne la norme. Ça veut dire que maintenant, on entend « on va faire un dépôt de dossier pour aller plus vite ». Alors qu'à mon sens, la plaidoirie, c'est aussi ce qui permet d'humaniser le dossier. On ne peut pas plaider par observation en disant « on va faire ça rapide, comme ça ».
C'est ce qui se fait de plus en plus.
Oui,
c'est-à-dire que
malheureusement,
on se rencontre plus.
Les avocats, à mon sens, doivent lutter contre ça.
Oui, mais c'est ce que j'explique dans mon livre, d'ailleurs. Où j'explique que...
C'est les relations avec les magistrats, votre livre, en fait, c'est ça.
Bon,
il y a une histoire derrière, bien sûr.
Je parle aussi du problème que l'on a, c'est-à-dire que des magistrats nous demandent de ne pas plaider, de déposer les dossiers. Et là où je suis stupéfaite, c'est que des confrères acceptent.
Ouais,
et
vraiment.
Ça, c'est incroyable.
Ouais. C'est-à-dire,
alors que notre métier, c'est plaider. On va déposer le dossier, il n'y a pas de souci.
Oui, il y a des confrères qui disent oui, on va déposer le dossier. Il y a même des
confrères le dossier pour les auditeurs.
Il y a même des confrères qui le demandent. Comme
expliquez-nous, déposer le dossier,
déposer
ce que ça veut dire.
Déposer le dossier, ça veut dire qu'on arrive devant le juge, on lui tend notre dossier, il nous donne la date de délibéré, il s'en va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mot d'échangé sur l'affaire.
Il ne voit même pas le client.
Ouais. Voilà. Donc, mais il ne voit plus le client.
C'est vraiment déshumanisé.
Non. Non, donc, c'est comme une entreprise, en fait.
La justice est en train de s'éloigner, alors, des justiciables.
Bien sûr, des justiciables. Mais venez dans les tribunaux, venez dans les juridictions. Les seules juridictions, aujourd'hui, dans lesquelles on plaide encore l'intégralité des dossiers, c'est le tribunal correctionnel et c'est également le conseil du prud'homme.
Pour qu'on comprenne bien, cette notion de déshumaniser dans un procès, alors, ensuite, il y a eu les masques. On dit que, pour un avocat, c'est quand même très important, ou même pour les juges, de voir le prévenu, de voir sa réaction. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, aujourd'hui, sont importantes, justement, pour ces procès. C'est justement ce que dit l'avocat, ce que disent les personnes là, et de voir ce qui se passe et de comprendre la situation.
Oui, c'est le contact humain. Puisque forcément, quand un juge interroge un client, notamment en matière correctionnelle, il voit, il y a la spontanéité. À partir du moment où il y a un masque, à partir
déjà
du moment
y a le
où
box.
On est... Bien sûr, il y a, alors, oui, il y a le box,
a le box
déjà qui est gênant.
Masque,
et puis, en plus, quand on est en visioconférence, parce qu'avec les problèmes de pénitentiaire, des fois, ils ne les extraient plus et on les a en visioconférence. Alors, quand ça bug, c'est la catastrophe. Quand ça fonctionne, c'est complètement déshumanisé. C'est un vrai problème, parce qu'il y a la spontanéité des audiences qui devrait être là. Et puis, on est quand même toutes les deux, on pratique le droit de la famille. Moi, j'ai écrit un papier lorsqu'il y a eu la réforme. Cette réforme du divorce est une honte parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait l'audience de conciliation. Et l'audience de conciliation, le magistrat, c'est tout simple, il avait des mouchoirs à côté de lui. Parce que lorsque les époux les rencontraient seul à seul, c'était la seule fois où ils voyaient le magistrat et ils pouvaient leur expliquer leur vie, un petit peu ce qu'ils ressentaient dans le cadre d'un divorce. Et c'était pas rare que le magistrat donne son mouchoir parce que c'est quand même un drame personnel de divorcer. Aujourd'hui, ça n'est plus. Sous prétexte de soi-disant raccourcir les délais, sauf que les délais, ils se sont allongés, on n'a rien raccourci du tout et on a enlevé cette part d'humanité. Alors que s'il y a bien un domaine dans lequel l'humanité doit rester, c'est bien le droit de la famille.
Et d'ailleurs, Sarah Salman, c'est l'un des secteurs secteurs où ça explose le plus, évidemment.
Alors,
les
c'est vrai
les séparations,
le confinement...
les divorces, les litiges aussi. Non, puis même, c'est une tendance, et c'est vrai,
accentuée
peut-être
par le confinement.
Le confinement
a quand même accentué, et ça a accentué aussi, je dirais, les violences conjugales.
Ouais.
C'est-à-dire que maintenant, ils étaient en huis clos, il n'y avait même plus cette possibilité d'avoir un peu de souffle quand le conjoint violent n'était pas là. Là, c'était vraiment un vase clos. Et aussi, j'aimerais souligner que dans les violences conjugales, on oublie la dépendance économique et financière. Ça veut dire qu'une femme victime de violences conjugales, enfin je dis une femme, en fait ça peut être un homme aussi, mais c'est
majoritairement
des femmes. Et en fait, si jamais vous n'avez pas d'argent, trois enfants, concrètement vous partez comment ? Et ça, le droit ne répond pas vraiment à ça. C'est-à-dire que vous avez, on peut vous expliquer, vous pouvez demander une ordonnance de protection. Alors là, les choses ont quand même été accélérées, on l'a quand même plus rapidement.
Oui.
C'est rendu 6 jours à compter de la date d'audience, donc c'est quand même un progrès. Et il faut agir aussi au pénal. Mais la dépendance économique est là.
Est un enjeu.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger et Cécile de Minibus, rendez-vous dès lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec André Bercoff et son invité Nathan Devers. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio et merci à tous pour votre fidélité. On va retrouver dans un instant André Bercoff dans tous ses états. Mais d'abord, on va s'écouter le tout dernier titre de Bob Sinclair. Pour son grand retour, le célèbre DJ nous offre un titre dance comme il sait si bien le faire. Voici We Could Be Dancing sur Sud Radio. Dans le meilleur de Sud Radio, dernier titre de Bob Sinclair, qui sera l'invité exceptionnel du Loft Music le mardi 22 juin en direct de 20h à 21h. On poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. L'animateur recevait jeudi Nathan Devers, normalien, romancier et agrégé de philosophie, venu présenter son livre Espace Fumeur, un livre dans lequel il dresse un portrait du fumeur au travers de ses expériences et de ses souvenirs personnels. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Je suis amoureux. D'une cigarette, toute la sainte journée.
Et voilà, Jacques Higelin, amoureux d'une cigarette. Eh bien, on a invité aujourd'hui avec André Bercoff un autre amoureux d'une cigarette. En tout cas, il a été amoureux pendant 10 années de ses cigarettes. C'est Nathan Devers, qui est normalien, agrégé de philosophie, romancier, et qui publie ce livre « Espace fumeur » aux éditions Grasset.
Alors effectivement, bon, je le dis tout de suite, parce qu'on va encore nous dire comment, vous allez faire l'apologie de la cigarette, mais vous ne savez pas, loi Evin, non, on ne fait l'apologie de rien du tout. On parle d'un essai qui est un essai très intéressant, parce qu'il aborde cette question-là d'une autre manière que la manière hygiéniste habituelle, médecin, pas médecin, etc. On en parle parce que, ben voilà, et puis je rappellerai à quelques hypocrites officiels que jusqu'ici, le tabac n'est pas interdit en France et que les bureaux de tabac ne sont pas interdits en France. C'est le moins que l'on puisse dire, recettes d'État et taxes obligent. Donc, laissons le moralisme et la moraline de côté et parlons du livre de Nathan Devers. Donc, Nathan Devers, d'abord, vous avez été un vrai addict, vous ?
Oui, bonjour. Alors oui, bonjour. J'ai été un vrai addict depuis le plus jeune âge. J'ai commencé à fumer assez tôt, très tôt même.
C'est-à-dire à quel âge ?
11-12 ans, à peu près, oui. Alors, dans le livre, je romance un petit peu, ça veut dire que je m'appuie sur des souvenirs personnels, mais le but n'était pas de parler de moi, et de voilà. Donc j'ai essayé d'universaliser pour faire un portrait type du fumeur, mais à travers mes expériences. Et c'est vrai que j'ai commencé à fumer très jeune, et qu'il y a une des expériences marquantes, alors c'était pas ma toute première cigarette, mais une des premières, c'est que j'étais en colonie de vacances, et je fumais la nuit sur le balcon d'une auberge de jeunesse, et qu'il y avait une accompagnatrice, une adulte, prof de SVT, qui m'attrape. Et elle me dit cette double phrase très étonnante, et c'est un peu le point de départ de mon livre. Au lieu de m'engueuler, elle me dit « Ah, tu devrais pas fumer, ou tu devrais arrêter de fumer, parce que tu es très jeune, et comme tu fumes, tu vas être très dépendant. » Donc dans sa phrase, dans ces phrases, il y avait deux injonctions contradictoires. Un ordre, arrête de fumer, interdiction. De fumer, et deux, une sorte de loi scientifique, une prévision. Ce grand mot de dépendance que j'avais jamais vraiment imaginé, où je m'étais jamais dit « je suis dépendant » ou « je vais l'être ». Et elle m'avait fait prendre conscience d'une chose qui n'existait pas encore. Et avec un petit zeste de mauvaise foi dans le livre, je dis que c'est ça qui a provoqué la dépendance, c'est-à-dire que les mots sont performatifs. Et que notamment, vous parliez d'hygiénisme, tout le discours scientifique sur la cigarette, il correspond naturellement, je l'imagine, à une réalité dans le cerveau, les récepteurs de nicotine. Mais il a aussi pour effet paradoxal de créer la psychologie du fumeur. C'est-à-dire que jamais le fumeur naturellement se dirait à sa première cigarette « Oh là là, je suis déjà dans une logique de dépendance ». Et c'est ici le discours sur la cigarette qui aussi vient prendre de l'avance et nommer une réalité.
Mais alors justement, vous parlez de ça, c'est intéressant, et vous en parlez dans votre livre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans cette logique, creusons un peu les paroles de votre accompagnatrice ou la personne qui était là à cette auberge de jeunesse, est-ce qu'il n'y a pas aussi le désir de transgression ? Parce qu'il existe déjà le désir de transgression quand on est très jeune. Donc, qui dit interdiction ou qui dit dépendance, peut dire oui, peut-être dépendance, mais en même temps, donc il y a danger. Donc je vais braver le danger. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi ?
Oui, je pense que c'est au cœur de la question du fumeur. Tout mon livre est un livre où j'essaye vraiment de parler, pas seulement de la psychologie du fumeur, mais de la place de la cigarette et du tabac dans la culture française, européenne, dans la littérature, dans les arts, etc. C'est vrai que la cigarette a toujours été associée à la transgression, c'est-à-dire à la liberté. Pour vous donner un exemple, alors on pourrait chacun prendre des exemples individuels, un enfant qui se rebelle contre ses parents, il fume, etc. Mais même des exemples politiques, quand les femmes aux États-Unis, quand les féministes ont commencé à faire des marches, notamment à New York, eh bien, elles se sont mises à fumer, sachant qu'elles étaient jusqu'alors exclues de la cigarette. C'était vraiment un marqueur de liberté. C'est pour ça que c'est très dommage de réduire la cigarette uniquement à un produit nocif, dangereux, méchant.
C'est très intéressant. Donc, justement, vous avez fait toutes les connotations autour, parce que la cigarette, c'est plus que la cigarette. Comme Chardon disait, l'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. C'est autre chose. Et alors, justement, creusons cela. Est-ce que la transgression, est-ce que, aussi, je voudrais que vous en parliez, chez les poètes, chez les écrivains, il y avait aussi ça. Alors, il y avait aussi le tabac ou le hashish ou les autres drogues, mais enfin, le tabac était considéré comme quoi c'est... Pour eux, c'était vraiment un outil de création, un adjuvant de création. C'était quoi ?
Je dirais que pour les écrivains, je ne veux pas faire de généralisation trop caricaturale, mais je dirais que la cigarette a toujours été aussi la drogue du travailleur. À la différence des alcools, forts ou pas forts d'ailleurs, ou des vraies drogues, qui sont incompatibles avec une vie quotidienne de travail, la cigarette, c'est la drogue du travailleur en général, que ce soit travail manuel ou intellectuel.
Oui, les deux, c'est ça qui est intéressant. Oui.
C'était pendant très longtemps, c'était la seule chose que le patron et l'ouvrier avaient en commun. Eux, tout leur quotidien et toute leur vie étaient opposés, diamétralement opposés, mais les uns et les autres fumaient. Et donc je pense que pour les écrivains, pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui pour certains, pour moi en tout cas c'est le cas, la cigarette vient canaliser une énergie. parce qu'un écrivain, c'est quand même un métier de chien, en quelque sorte. C'est d'accepter de rester 10 heures, même plus, à son bureau pendant des mois, sans sortir, etc. Donc c'est vrai
la
qu'il peut y avoir...
La page blanche, etc., etc.
Oui, c'est ça, la page blanche. C'est ce que Roland Barthes appelait créer une assesse de travail. Un appareil d'assesse de travail.
Et donc là, la cigarette a joué, ou joue encore chez certains, un rôle non négligeable.
Ah oui, elle joue encore un rôle non négligeable. Et ensuite, avec un paradoxe, c'est que pendant très longtemps, les écrivains ont eu le droit de se montrer avec leur cigarette, dans leurs interviews, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par exemple, Michel Houellebecq, je ne crois pas qu'il y ait une seule interview de lui à la télévision où on le voit fumer, ce qui est quand même problématique.
Oui,
et il y a des exemples.
Alors qu'il fume énormément. Enfin, on le voit toujours. En photo, on le voit avec, ça, avec la cigarette.
Oui, c'est ça. Et que ça, je pense que la cigarette a joué une place centrale dans l'écriture de son œuvre. Il y a des exemples encore plus parlants. J'en parle à la fin de mon livre qui me semble assez grave. Je vous en donne un seul. En 1996, La Poste fabrique des timbres à l'effigie de Malraux. Et donc, on voit une photo de Malraux avec sa clope pour lui rendre hommage, etc. Malraux, qui était un grand fumeur. Et elle décide en fait de renoncer à ça en disant « c'est impossible que sur le même timbre, il y a écrit le mot République française et une cigarette ». Et donc là, on se rend compte que la logique...
Et on l'a enlevé. Enfin, la
et on l'a enlevé. Et on l'a enlevé. Et après, ça a été le cas pour plein d'écrivains. Sartre, etc. Ce qui est grave là, c'est qu'on n'interdit pas seulement la cigarette pour le futur en disant « arrêtez de fumer à l'avenir ». C'est qu'on la supprime du passé. On la cancelle. C'est une interdiction rétroactive.
La cancel culture déjà là. Absolument.
Oui, c'est ça. On lui interdit d'avoir existé. Ce qui est totalement contradictoire.
Ce qui est quand même extraordinaire. Et je me rappelle, mais vous dites, on peut parler du cinéma. Pour moi, un de mes plus beaux souvenirs d'adolescence, c'est Les Neiges du Kilimandjaro, où on voit Ava Gardner, la sublime Ava Gardner, qui est là, et elle a une cigarette, et Gregory Peck vient allumer la cigarette. Scène, mais culte, quoi, des Neiges du Kilimandjaro. Et donc, à ce moment-là, et je suis sûr que des générations entières se sont mis, on va faire ça, la cigarette. Oui. Je suis Gregory Peck et elle est Ava Gardner, quoi. Donc, ça aussi, au cinéma aussi, ça a joué un rôle. Enfin, on voyait tous les acteurs fumer, enfin, dans les films.
Oui, tout à fait. Et alors... pareil, aujourd'hui, de plus en plus de voix, notamment des députés, je crois, disent que le cinéma, il ne faut pas qu'il fasse la promotion de la cigarette, avec cette idée extraordinaire que c'est une forme de contagion. De la même manière qu'on peut contaminer quelqu'un à une maladie, eh bien que voir des acteurs fumer au cinéma, ça va me contaminer du virus, du fumeur, enfin, c'est quand même lunaire comme argument. Et là, on voit bien que la cigarette, enfin, non, pardon, que l'art, la culture est réduite à une sorte de crachat contaminant, c'est extraordinaire.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours, bien sûr, de 12h à 14h. Je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de lundi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses invités sont revenus sur le classement sans suite de l'affaire Olivier Duhamel pour cause de prescription. Un débat qui a suscité de vifs échanges entre nos invités.
Le meilleur de Sud Radio.
Nicolas, vous, c'est un coup de gueule ?
Ah oui, c'est un coup de gueule sur le classement pour prescription de l'affaire Olivier Duhamel. Je trouve ça insensé, d'autant qu'aujourd'hui, il y avait matière à poursuite. C'est-à-dire qu'Olivier Duhamel, à la brigade des mineurs, a plus ou moins avoué effectivement les faits, et que donc les deux protagonistes de l'affaire sont en vie. Donc ce genre de choses, on aurait pu totalement le juger.
C'est la loi, c'est la loi.
Justement, je demande au législateur peut-être d'évoluer la loi. On l'a évoluée déjà, cette loi. Elle était d'avant 10 ans après les faits, après elle était 30 ans après la majorité. Je pense qu'il peut y avoir aujourd'hui, on pourrait peut-être abandonner la prescription pour ce genre de crime et de délit. Ouais, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Là, il y avait matière à poursuite. Je pense qu'il faut libérer la parole plus tôt. Et ça, c'est un mauvais signe pour tous les jeunes qui ont envie de libérer leur parole.
C'est compliqué. Et parfois, ce qu'expliquait un psychiatre, je crois que c'était un avocat, qui disait que, en fait, la prescription fait que parfois la parole se libère au moment de la prescription. Donc que cette date butoir, enfin moi ça m'a fait changer
bizarre,
un petit peu,
d'ailleurs.
Je ne sais pas ce qu'en pense si l'avocat.
Je suis un peu scandalisé par ce que je viens d'entendre. Qu'est-ce que c'est que la prescription ? Qu'est-ce que c'est que la prescription ? C'est une contrainte liée au fait que pour pouvoir condamner quelqu'un, pour lancer un procès, pour lui infliger une peine, c'est-à-dire une violence légitime, considérable, on considère qu'il faut respecter des règles de preuve, des règles de bénéfice du doute, etc., etc. On ne peut pas juger des faits 10, 15, 20, 30 ans après. Les témoins sont morts,
ils sont pas morts, ils sont en vie et les deux protagonistes reconnaissent les faits.
Ben oui, sauf que la femme de Duhamel est morte. Bon,
et oui, donc, alors,
ce témoignage aurait pu être intéressant. Non, je veux dire.
Bah si, quand même.
Ce que je veux dire au bout d'un moment, c'est qu'on peut. on peut aussi déclarer imprescriptible comme le crime contre l'humanité. Le crime de guerre n'est pas imprescriptible, je vous rappelle. Hein, on peut considérer qu'une contravention de stationnement devrait être imprescriptible.
Non, mais n'allons pas jusque-là.
Non. On focalise sur quelque chose. Je suis tout à fait désolé. Hein, des faits se sont produits. À ce moment-là, il y a eu une espèce d'omerta. Hein, si effectivement autour de lui les choses avaient été dites, je suis tout à fait d'accord. Hein, à ce moment-là, il aurait fallu le juger. Aujourd'hui, les conditions pour un jugement équitable n'existent plus. Dire que les plaignants sont en vie, ils ont une vie derrière, 20 ans, 30 ans, etc., etc. C'est tant mieux d'ailleurs. Hein. Mais venir dire, vous avez besoin d'une cérémonie expiatoire. La mort sociale de ce monsieur, elle est actée. Et puis surtout,
absolument,
surtout, c'est vrai. Le procès qui a été fait est celui de ce milieu, ouais. Et celui de cette gauche caviar, etc. Celui-là. Notre société n'a rien à gagner à une espèce de cérémonie expiatoire comme ça. Hein. Et alors, ces prescriptions rallongées permettent tout un tas de débordements, de gens qui sont mal dans leur vie, qui se réinventent des choses, etc. J'en ai vu des dizaines passer d'affaires comme ça, avec des familles détruites a posteriori, etc. Gardons nos principes. Ils sont fondamentaux et ils protègent qui ? Les innocents.
Absolument, bravo.
Je suis pas d'accord.
Sophie, votre coup de gueule ?
J'avais un coup de gueule parce que j'apprends que les jeunes, les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas être vaccinés sans leur propre autorisation. C'est-à-dire que les parents qui disent à une petite fille ou un garçon de 14 ans « tu vas te faire vacciner », non, il faut son autorisation. Et je trouve que cette espèce de dérive justement va dans le sens de cette dérive générale. Non. Un jeune obéit à ses parents, même s'il a 16 ans, on en parle chez soi. De toute façon, on ne peut pas l'emmener enchaîner se faire vacciner. C'est l'occasion d'en débattre. Au sein de la famille, c'est vrai. On n'a pas besoin de l'autorisation d'un mineur pour le vacciner. Sinon, le diphtécoque à 6 mois, on fait quoi aussi Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et il y a une espèce, ça fait partie de cette culture de la permissivité. De la considération, je pense que les jeunes ont besoin de discipline, oui absolument, je suis très ringarde, d'éducation, là c'est l'horreur, je sens qu'il y a des auditeurs qui vont hurler. Je pense qu'il faut un peu plus d'autorité, un peu plus de...
Et donc vacciner les ados contre leur gré.
De toute façon, vous n'allez pas vacciner un ado contre sa volonté, parce que bon courage. Et encore une fois, il faut l'emmener, le tenir pendant qu'on fait la piqûre, donc ça ne marche pas. Donc ça tombe sous le sens qu'il y aura une discussion. Le môme qui dit « je ne veux pas », les parents aussi qui sont un peu bloqués. Mais donc, ce n'est pas à qui que ce soit, et il n'y a pas d'interdiction à mettre si l'ado ou si l'enfant ne veut pas se faire vacciner.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu comme d'habitude en humour. À vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Merci d'être fidèle à cette émission tous les week-ends. Avant de retrouver la chronique de Cédric Cizère, on va s'écouter le tout dernier titre de Christophe Maé. Très discret depuis quelques temps, l'artiste revient pour célébrer nos retrouvailles avec la vie d'avant, les restaurants, le théâtre, les terrasses, les concerts, la lumière et le soleil. C'est d'ailleurs le titre qu'il a donné à ce futur tube. Voici « Il y a du soleil » sur Sud Radio.
1, 2, 3, 4
du soleil dans le meilleur de Sud Radio. Dernier titre de Christophe Maé, extrait de son cinquième album studio La vie d'artiste. Comme chaque week-end, on va terminer avec la chronique de Cédric Cizer. Mercredi, il a répondu à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Et il est évidemment revenu en humour sur la victoire des Bleus lors du match France-Allemagne de mardi. Écoutez.
On est les champions, hein,
c'est voilà, ça. On est tous ensemble. Ah Patrick, ça nous a porté chance, ouais, bah, Johnny. On l'a mis hier. Ouais. Alors je mettrai tous les jours cette chanson pour aller jusqu'au bout de l'euro. Parce que je veux réhabiliter cette chanson qui nous a fait perdre en 2002. Je veux qu'on réhabilite cette chanson. Bon, arrête Richard quand même, parce que là, on la réhabilite trop, je trouve, cette chanson. Il faut arrêter tout de suite. Patrick, vous aviez pronostiqué un partout.
Oui, c'est vrai.
Voilà, vous êtes aussi bon pronostic que Didier Raoult. Ouais. Il y a Didier Raoult et vous en pronostic. Vous êtes un petit peu comme ça. Didier Raoult qui avait dit que la France perdait 3-0. Donc bon, il connaît pas.
Il fait des pronostics aussi.
En tout. Dès que j'ai un problème, je veux savoir si.
Il n'avait pas pronostiqué.
J'ai demandé si j'achète un appart.
C'est d'humour, mais.
J'ai demandé si. Est-ce que j'achète un appart à Montigny ou à Courbevoie? Finalement, j'ai acheté Courbevoie alors qu'il m'avait dit Montigny. Mais c'est pas grave. Cécile avait fait 2-1. C'est elle qui était la plus proche. Donc on la félicite. C'est pour ça qu'elle est partie.
Bravo Cécile.
Elle a gagné 5000 euros grâce à ce pari. Alors. 1-0, deux buts refusés, un pénalty oublié, Pavard qui est batistonné. Vous vous rappelez, Patrick? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est batistonné?
Bah oui, c'est qu'on reçoit un coup sur la tête.
On se fait éclater comme Patrick Batiston et le mec en face repart tranquillement jouer à sa place. Aucun problème. Alors nous, les buts qu'on marque, les arbitres, ils n'en veulent pas. Les pénaltys non plus. Mais Deschamps, il est tellement fort qu'il fait marquer les Allemands pour nous. Mais bon, il nous a habitués. Ça fait 7 ans qu'il réussit à faire marquer Olivier Giroud sans qu'il joue. Donc c'est quand même un effort. Il est magnifique, ce Didier Deschamps. Alors vous savez que le sélectionneur des Bleus nous réserve chaque matin la primeur de ses réactions pour Sud Radio. Vous savez ça. Bien et sûr. Oui, alors est-ce qu'il est content de la victoire? Est-ce qu'il est satisfait de la prestation de celui que la France entière réclamé depuis 6 ans Karim Benzema? Et bien sa réponse en exclusivité.
On écoute.
Oh, à partir de là, bonjour. C'est vrai que c'est une victoire exceptionnelle et même extraordinaire. Hein.
C'est vrai.
Et puis pour Karim, il a été dans la lignée de ce qu'il fait depuis des années. Hein. Ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas vu Karim Benzema en équipe de France. Et hier, pendant le match, et ben, on ne l'a pas vu non plus.
C'est vrai qu'on ne l'a pas vu non plus. Hein. Et Karim Benzema, hier, c'était pas non plus un match de fou. Pourtant, je l'adore, Karim. Mais je pense, Patrick, qu'il a une maladie orpheline, Karim Benzema. Ouais. Ah. Je pense qu'il est allergique à la surface de réparation. Ça ne l'intéresse pas, en fait, dans la surface de réparation. Il n'y a jamais plus de 5 secondes. Je pense qu'il passe plus de temps dans la surface de Loris que dans la surface adverse. Mais bon, espérons qu'avec cette victoire, on oublie les embrouilles bidons là, qui sont partout là, entre les joueurs. Eh monsieur, monsieur, il y a Kylian, il veut pas me passer le ballon. Eh monsieur, monsieur, on avait dit que c'était moi qui tirais les pénaltys. Eh monsieur, monsieur, je retrouve plus ma sextape. Bah, c'est ça, c'est terrible. Didier Deschamps, il doit gérer tout ça. C'est un truc de fou.
Alors, maintenant, ils se font mordre en plus.
Ils se font mordre. Ah bah oui, c'est vrai, ça c'est très sexy. C'est une image où j'étais tout émoustillé par cette image. Deschamps, il a été choisi pour être sélectionneur, non pas parce qu'il a un palmarès exceptionnel, mais parce qu'il a le BAFA. Tout c'est tout, il doit gérer les trucs comme ça entre les enfants. Mais l'épreuve la plus dure hier soir pour Didier, est-ce que vous savez ce que c'était?
Allez-y.
Il a fallu serrer la main de Joachim Löw. Ah. Et vous savez que c'est terrible, c'est le sélectionneur allemand qui vérifie sans arrêt si ses attributs sont toujours dans son slip, vous savez.
Et
qui
fait de la. Quoi,
mais vous connaissez pas cette image qui a fait le tour du monde depuis 2014?
Moi je la connais, même moi qui ne regarde jamais le foot, je l'ai vu.
Mais oui, ceux qui ont le nez sans arrêt, il se met les mains dans le slip, et après il sent ce qu'il y a à ses doigts, c'est terrible.
C'est terrible.
Vous imaginez quand même la spéléologie dans les narines, c'est catastrophique. Alors Deschamps, il a été malin, il lui a fait la bise. Et ça, c'est très fort.
Ah, il a pas fait coup d'à-coup.
Non, ah non, non, il a fait la bise parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, ça fait 15 ans, Joachim Löw.
Des gestes barrières Covid.
Oui, mais ils sont tous testés, retestés, ils sont testés tous les matins, vaccinés, revaccinés. Dans le milieu du foot, on n'appelle pas Joachim Löw, mais Joachim Löw de gros dégueulasse. Il est gros, vraiment dégueulasse. Hein. Mais bon, le pauvre, on l'embrasse, bien sûr. Et hier soir, vous savez, Judith...
Non, moi je l'embrasse pas, personne.
Moi, je préfère l'embrasser que serrer
la
main.
Aller. Moi, je le check.
Mais vous avez raison. Voilà. Alors, Judith, vous savez qu'hier soir, on a regardé le match avec Patrick.
Ah d'accord,
on
tous
était
les deux,
tous les deux
en amoureux.
À la maison,
oh,
voilà.
C'est mignon, tout ça, j'étais pas au courant.
Sympa,
j'adore l'idée.
J'ai mis des bougies, on s'est fait livrer, bien sûr, de la Macédoine, parce que c'est notre plat préféré avec Patrick. On adore la Macédoine. Et c'est vrai que c'est cool de se faire livrer à la maison. Ça nous change la vie, la livraison à domicile, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, Frishti, Tinder. Voilà, bon, on se fait tout livrer à domicile pour manger. Uber Eats, c'est de plus en plus écolo, puisque depuis quelques temps, ils ne mettent plus de couverts dans les sacs.
Comme Deliveroo aussi.
Bah, vous avez vu ça? Donc, tu manges ton hachi parmentier, mais sans couvert. C'est génial. Merci beaucoup, c'est pratique. Et ils vont un petit peu trop loin dans l'écologie, parce que souvent, ils te livrent, mais dans ton sac, il n'y a pas ton plat. Ça, c'est très écolo. Ça. Bah, oui, bien sûr. Mais c'est très bon, la blanquette de veau sans veau. Ça arrive très souvent. Cher Uber Eats, tu commandes 2 plats, au final, il t'en manque 3. Et ça, c'est très fort. Je vous conseille. Et Uber Eats va lancer un système éco-responsable de consigne. Alors, pour éviter le plastique, ils te livrent un plat dans un contenant en verre. Tu dois le rapporter au restaurant pour récupérer une caution de 4 euros. En gros, tu te fais livrer pour ne pas avoir à te déplacer, mais au final, tu vas te déplacer pour apporter ton plat. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas comment on peut faire ça, alors que nous, on ne veut même pas faire 200 mètres pour aller chercher un sundae au chocolat chez McDo. Ça nous saoule. Donc, on ne va pas ramener un plat pour l'écologie.
Oh, pour 4 euros ?
Non, non. Je suis blindé. Je travaille sur une radio.
D'accord.
Alors, j'avoue que j'ai souvent un problème avec des nuggets qui disparaissent quand je me fais livrer. Ça vous arrive ça aussi ou pas ?
C'est quoi ?
Je vous assure, j'ai toujours des nuggets.
Je ne commande jamais de nuggets.
Ah ben voilà, mais moi tous les matins, c'est mon petit déjeuner. Alors je vais vous livrer la technique pour être sûr de manger 5 nuggets quand vous vous faites livrer, puisque les livreurs, je pense qu'ils en prennent quelques-uns. Vous savez ce que c'est ? C'est toujours commander une boîte de vin. Avec un peu de chance, il en restera au moins 5. Le livreur n'aura mangé que 15 seulement. Ça suffit largement. Parce que Uber Eats, c'est comme si tu manges au resto chez toi, mais ça coûte deux fois plus cher. C'est livré renversé et froid. Mais j'aime bien quand même.
Ah, vous n'êtes pas satisfait. Hein.
Non, je ne suis pas satisfait du tout. Mais c'est vrai que c'est sympa, les livraisons à domicile. Mais tu peux attendre tellement longtemps que tu as plus vite fait de passer un CAP cuisine que de faire le plat toi-même. En fait, je ne comprends pas en fait, ce système. Il y en a un qui se fait souvent livrer. Est-ce que vous savez qui c'est ? C'est notre ami qui nous appelle tous les jours, Jean Castex.
Ah.
Jean Castex, il se fait livrer tout le temps. Il adore la pizza au foie gras, il adore les pâtes au foie gras, il adore les Paris-Brest au foie gras. Vous allez voir que pour lui, se faire livrer ses repas ou les élections, pour lui, c'est un petit peu la même chose. Il a trouvé une espèce de parallèle très intéressant. Alors écoutons son analyse en direct de Matignon, bien sûr.
Française, Français, le gouvernement se reconnaît dans les services de livraison à domicile. En effet, quand un Français élit un président, au final, il n'a jamais ce qu'il a commandé.
Il a raison, vous avez vu, Jean Castex, il connaît bien. Mais on n'a jamais ce qu'on demande. Sur le programme, on n'a jamais ce qu'on a à demander à la base. Donc c'est pour ça, Patrick, il fait ça tout le temps.
Ouais.
C'est ça, vous commandez tout le temps, vous ?
Tout le temps.
Tout le temps, il est blindé, bien sûr.
Mais il y a toujours ce qu'il faut sur son programme, par contre.
Non, jamais, en fait.
C'est bien. Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizère, que vous pouvez retrouver du lundi au mercredi à 8h20 dans la matinale, aux côtés de Patrick Roger et de Cécile de Minibus. Merci d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.